Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Mélanie.
Bonjour Julia.
Ah bah, ne répondez pas. Allez, bienvenue à tous dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dédié au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours de 11h à 12h30 en direct évidemment. Alors Mélanie, par quoi va-t-on commencer ce matin?
Eh bien Julia, ce matin nous allons démarrer par cette question: et si on mettait nos enfants au yoga? En effet, on commence à bien saisir actuellement l'intérêt et les bienfaits de cette discipline pour nous les adultes, mais peut-elle entraîner les mêmes bénéfices pour nos petits? Eh bien on va creuser tout ça et même vous apprendre peut-être quelques postures adaptées aux plus jeunes et inspirées des contes de fées. Et donc nos coachs pour nous initier au yoga pour enfants ce matin, ce seront Christelle Cornu, professeure de yoga, et Véronique Deller, journaliste. Ensemble, elles ont coécrit le livre Namasté, petit chat beauté, aux éditions Solar.
Et puis Mélanie, à 11h35, dans notre dossier santé bien-être du jour, on va parler une fois de plus de l'alimentation. On va voir aujourd'hui comment dompter son diabète dans l'assiette et surtout comment continuer à se régaler même quand on a cette maladie chronique. Car la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, et on vous donnera la recette avec Annabelle Chamès, auteure du livre Diabète et coups de fourchette aux éditions Le Duc.
Après ça, Julia, à midi, dans la partie tendance de Bienfait pour vous, il y aura comme chaque jour d'abord la chronique gastronomie. Ce midi, c'est le chef Abdel Alaoui qui passera pour nous en cuisine. Il va nous donner tous ses secrets pour se faire vraiment plaisir avec les fruits de mer. Ensuite, ce sera au tour de Philippine Darblay de nous présenter la tendance qu'elle a dégotée pour nous. Aujourd'hui, elle a décidé de nous parler de ses kits de rééducation olfactive, des kits qui ont le vent en poupe, notamment depuis l'épidémie de Covid, mais pas que, et qui permettent donc de faire travailler et de retrouver l'odorat.
Et enfin, Mélanie, pour terminer ce tour de table des tendances, c'est Sophie Braffman, notre spécialiste mode, qui sera à notre côté. Elle va nous délivrer son ordonnance coquine aujourd'hui en matière de lingerie, et pas n'importe quelle culotte ou soutien-gorge. Elle nous propose son choix de lingerie de fête ce midi. Et il y aura, je pense, quelques paillettes.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, tous les jours, on tente de rendre notre vie plus zen, que vous soyez seul ou en famille. En général, dans l'émission, il y en a de toute façon pour tout le monde. Alors la question avec laquelle on va commencer, elle va déjà intéresser tous ceux qui ont des petits dans leur entourage. Cette question, la voici: et si on mettait nos enfants au yoga?
Mais oui, après tout, nous sommes de plus en plus nombreux, nous les adultes, à profiter des bienfaits de cette pratique. Ça nous détend, ça nous assouplit, ça nous fait un bien fou. Alors pourquoi ne pas en faire bénéficier les plus jeunes? On va vous proposer une petite initiation à cette discipline chez les petits dans quelques minutes avec nos deux invités. Mais avant cela, lui, je suis sûre qu'il maîtrise la position du lotus à la perfection, qu'il fait tous les matins des salutations au soleil. Et c'est pour ça qu'il illumine notre studio. Bonjour.
Merci.
Clément Lanoux.
Bonjour, vous pouvez m'appeler...
Notre humoriste yogi.
Clément la souplesse, comme on m'amène dans le milieu du yoga, effectivement. Vous ne croyez pas si bien dire, ma sœur est prof de yoga également. Moi, j'ai essayé une fois le yoga Bikram, c'est-à-dire dans une salle où il faisait chaud. Les pompiers s'en souviennent encore. Bref, je partais déjà pas très objectif. J'avais un entourage déjà pour qui le yoga, c'était ça.
Le yoga, pour moi, franchement, rien que le mot, il m'ennuie.
Le yoga, c'est pas terrible. Et je ne dis pas ça parce que j'ai aucune souplesse. Hein.
Donc voilà, je me suis dit, le rôle, ça va être de positiver le yoga et surtout d'en parler aux enfants. Donc je me suis tourné vers les enfants. Je me suis dit, est-ce que déjà, les enfants, vous savez ce qu'est le yoga?
C'est comme une gymnastique. C'est de la danse, mais avec de la bagarre et en ralenti.
Alors ça, c'est de la capoeira, de la danse au ralenti, mais on commence à se rapprocher d'une forme d'art. Heureusement, il y a des enfants beaucoup plus calés.
C'est un sport, on fait comme des acrobaties.
Ouais, déjà, ça se rapproche,
déjà, on y est.
Peut-être.
Et puis le plus drôle, j'aurais dit, est-ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous connaissez les positions du yoga? Et c'est là où ça devient sympa.
Oui, les pieds sur la tête. D'abord, tu t'allonges sur le ventre. Après, tu prends une position au calme. D'un seul coup, tu mets les jambes sur la tête.
L'arbre magique, la position de l'arbre. Droit et on met les mains contre le corps.
Le petit pont.
Le petit pont, c'est une position?
Alors. Oui, le pont, le lotus, le bateau. Oui.
Le pont, le lotus, le bateau.
Le petit pont, pour vous, c'était un truc de foot, non?
Ah ben moi, tout était l'arme magique, c'était un truc de voiture aussi qu'on accroche au rétro. Donc, est-ce que ça existe ou pas? On va avoir la réponse dans quelques secondes. Mais avant, je voulais quand même vous montrer qu'il y a des enfants qui, justement, connaissaient bien le yoga. J'ai demandé, voilà, s'ils étaient plutôt calés ou pas.
Moyennement.
Le yoga, c'est pour les feignants, c'est pour les personnes qui font croire qu'ils font du sport.
Donc, il y a du boulot, les enfants ont le yoga à découvrir, on est là pour ça, cette émission est là pour ça.
Merci beaucoup Clément, on va rétablir la vérité.
J'espère,
bien sûr. Merci en tout cas pour cette belle mise en jambe, cet échauffement sur notre sujet du jour. On vous retrouve bien sûr demain avec un autre reportage. Et donc, on va démarrer notre initiation, on l'a dit, au yoga pour les plus jeunes avec nos invités. Bonjour Christelle Cornu, bonjour Véronique Deller.
Bonjour.
Vous êtes donc journaliste. Alors Véronique, vous êtes journaliste. et vous avez donc Christelle, professeure de yoga, et vous avez coécrit toutes les deux ensemble Namasté, petit chat beauté aux éditions Solar. Alors, on va parler de yoga pour les enfants. Première question, puisqu'on a vu, il y a quelques lacunes hein, dans le reportage de Clément. C'est quoi le yoga tout court? Et c'est quoi le yoga pour enfants, on va dire? Véronique ou
Christelle. Vais répondre en premier, ouais. Mais c'est vrai que Véronique, elle est pratiquante aussi, donc c'est intéressant.
Approchez-vous un petit peu plus de votre micro.
Oui. Voilà. Alors, les enfants l'ont évoqué, hein, ça apparaît toujours comme quelque chose de sportif. Bah oui, il y a du mouvement. Après, la grosse différence, c'est qu'on vient travailler sur d'autres aspects, comme la respiration, qu'on va appeler le pranayama, la relaxation. Et d'autres aspects comme par exemple le vivre ensemble ou être bien et en harmonie avec soi-même. Et c'est tout ça qui constitue le yoga. Alors si on prend que l'aspect postural, bah là effectivement ça s'apparente à une pratique sportive, mais c'est tout ce qui l'englobe qui va faire la différence.
Oui, il faut parler de l'état d'esprit du yoga. Et justement, à partir de quel âge, le plus tôt en tout cas, on peut commencer à initier son enfant au yoga?
Alors, je suis aussi éducatrice de jeunes enfants, donc j'ai beaucoup travaillé en crèche et j'ai commencé à faire ça avec des enfants qui sont tout petits, donc même des bébés.
Ah oui.
Où là, c'est plus nous qui allons être dans l'action, on va faire à l'enfant. Ils sont aussi même dans l'observation, c'est pas plus tard que hier, j'étais encore en crèche. Il y a des tout petits, en fait, ils sont dans l'observation, mais on voit qu'ils essayent de pousser dans leurs appuis pour se redresser, pour être dans l'imitation.
L'avantage, c'est qu'ils sont souples, les bébés, en général.
Oui, c'est vrai. Là où ils sont vraiment proactifs, c'est autour de la marche. Voilà.
Ah oui, d'accord. Donc, ça vers 18 mois, enfin 15 mois. Quoi.
Alors oui, autour de 15 mois.
Ils ont marché tard chez vous, les enfants.
Ah oui, je sais pas, moi, à 10 mois, il marchait, mon fils.
Oui, mon fils aussi.
Il est particulièrement doué, votre fils.
Oui, mais évidemment,
c'est un génie. Non, mais concrètement, je pense qu'on peut commencer à faire des jolies choses en yoga avec les enfants à partir de 18 mois, 2 ans, très facilement.
D'accord.
Et pour les enfants, c'est super ludique et vraiment très amusant, donc ils s'y prêtent vraiment volontiers.
Et puis c'est une discipline complète, on a bien compris. Ouais. C'est pas qu'une histoire de sport, de souplesse, hein, c'est bien plus que ça. Clément, vous voulez dire quelque chose ?
Il n'y a pas d'embrouille, c'est le seul sport, je pense, au monde où il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas des compétitions de yoga, si ?
Alors si, ça existe. J'ai découvert ça, effectivement. Il en existe. Après, je pense que chaque professeur voit les choses. Moi, personnellement, mon orientation, c'est de sortir de ces enjeux de compétition. On n'est pas là pour être en représentation, on est là avant tout pour soi-même. Et même des tout-petits, on peut leur expliquer ça.
Et est-ce que vous pensez, Christelle, qu'il faut être soi-même bon en yoga pour initier le yoga à ses
Absolument
enfants
pas.
D'accord.
Absolument pas. J'interviens dans des crèches où les professionnels, j'essaye de les former, en fait, plus ou moins sur le long terme. Elles pratiquent pas du tout. C'est quelque chose qui est accessible et qu'on a rendu très accessible dans le livre. Mmh. Après, il y a quelques précautions. On en parlera probablement à un moment donné. Mais non, pas du tout. À ce stade, on n'est pas dans une exigence posturale avec les enfants qui nécessite, en fait, on est là pour le fun, quoi. Et puis, pour l'aspect psychomoteur, la découverte, en fait.
Et on est d'accord qu'avec les petits, c'est un sport dans lequel il faut qu'ils soient, enfin, si c'est un sport, hein, donc c'est un sport, pas que ça, mais ça l'est aussi, c'est un sport dans lequel ils doivent être accompagnés, ils vont pas se mettre à pratiquer du yoga tout seul à la maison, parce que moi, j'ai des copines qui postent des trucs incroyables sur Instagram, elles sont très fortes, elles font ça, même chez elles et en cours. Nos enfants vont pas en arriver là, non?
Bah si, ils font la posture de l'enfant, hein, déjà.
Exactement. C'est ce que j'allais dire, dès tout petit, même la position du cobra, quand on est allongé sur le ventre avec les deux mains proches de la poitrine et on se redresse, c'est des positions, les enfants naturellement se mettent dans des positions de yoga. Après, il suffit de faire le lien.
Et nous, on a plus de mal à se remettre en position de, de yoga quand on est plus grand, justement. On perd ça, finalement, cette dynamique. Mais un bébé, par exemple, qui se tient, là, je ne peux pas trop faire.
Mais ça s'appelle la posture du bébé heureux, où on attrape, en fait.
Ses deux pieds et ses deux talons, là. Et ça fait beaucoup de bien, ça.
Ah, mais vous connaissez un peu, Julia.
Oui, sur le dos, ça permet d'ouvrir les lombaires, de soulager.
Ça fait peut-être du bien, mes lombaires, je vais m'y mettre, moi, je crois.
Eh bien, vous restez avec nous toutes les deux. L'initiation au yoga pour enfants, ça démarre très concrètement dans quelques minutes. Et la méthode que l'on va vous présenter, elle est très sympa et très maligne, je trouve, pour susciter l'intérêt justement des plus jeunes, car elle est inspirée des contes comme le chat beauté ou Cendrillon. On vous explique tout, juste le temps de s'échauffer un peu et d'enfiler nos collants de princesse. Alors restez avec nous sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question. Et si on mettait nos enfants au yoga? Pour tout nous expliquer sur cette discipline à la portée des plus jeunes, elles sont toujours avec nous en studio. Christelle Cornu, professeure de yoga, et Véronique Deller, journaliste. Alors toutes les deux, vous avez coécrit ce livre, hein, Namasté, petit chat beauté, aux éditions Solar. Alors, oui, tout le monde rigole parce que j'ai mis le livre à l'envers, voilà.
Alors, le yoga,
c'est chien tête en bas, c'est voilà. Une des positions du yoga. Alors, comment fait-on concrètement pour mettre le yoga à la portée des enfants? Vous, alors, c'est à travers les contes de fées, notamment, que vous vous êtes lancée. C'est bien ça, hein, Véronique?
Oui, alors, l'approche qu'on a eue, nous, en fait, c'est que... Déjà, la vocation, c'était de rendre le yoga le plus accessible à tout le monde et notamment à ceux qui ne pratiquent pas. Et c'est vrai que par le biais de l'histoire et du conte, on entre très facilement en fait, dans la pratique. Mmh. Et l'autre parti pris qu'on avait, nous, c'était d'arriver à accompagner les émotions de l'enfant. Parce que nous, on a ciblé vraiment dans ce livre les 3-10 ans. Et on sait que c'est aussi des âges où parfois les émotions sont un peu difficiles à vivre, notamment quand on parle de grande colère ou de tristesse, etc. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, les contes, c'est vraiment des histoires formidables pour ça, parce que ça aborde les émotions de manière très universelle et ça permet en fait d'initier après la pratique et de faire ce travail d'accompagnement de l'émotionnel qui passe par le yoga, la relaxation, la respiration et l'échange aussi, parce que l'idée aussi en fin de parcours est d'arriver à ouvrir la discussion avec son enfant.
Pour qu'on comprenne bien votre travail et ce qu'il y a dans ce fabuleux livre, il y a des contes connus comme Le Chat Beauté, Cendrillon, mais il y a aussi des contes originaux. Comment vous avez travaillé concrètement?
Alors, l'idée, c'était, je pense déjà, de faire un brassage entre des contes évidemment connus qui permettent un petit peu de rassembler toute la famille et d'avoir des contes moins connus, notamment d'inspiration indienne, qui sont vraiment ciblés sur une émotion. Donc, par exemple, on a la femme qui était toujours très en colère, qui est un conte en fait indien qui raconte l'histoire d'une femme qui est en fait très en colère en permanence. Il n'y a pas de secret dans le titre. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une excellente porte d'entrée pour aborder le thème de la colère avec son enfant. Et justement, ce brassage en fait très différencié permettait à la fois d'avoir des histoires qu'on connaissait, qu'on s'approprie facilement, et des portes d'entrée plus évidentes à quelque part sur les émotions.
Et comment vous les avez écrits ou réécrits pour adapter ça au yoga? Enfin, c'est quoi le travail transversal entre les deux finalement?
Alors, il y a là aussi un double travail, c'est-à-dire que moi j'ai déjà retravaillé un peu les contes parce que je trouve qu'il y a une approche un petit peu patriarcale, un peu forte quand même.
Non,
sur le
sérieusement.
donc, à la base, pour reprendre l'exemple de la femme qui était très très en colère, en fait, à la base, le conte, c'est l'homme qui est très très en colère. Mais donc, en l'occurrence, il avait un peu réécrit pour le féminiser dans l'idée qu'en fait, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être les héros des contes, ou en tout cas les héros heureux des contes, hein, parce que souvent la femme, elle est malheureuse. Et après, l'histoire, l'objectif aussi de la réécriture de ces contes était de les segmenter de manière à ce qu'on puisse en fait appuyer chaque étape de l'histoire sur une posture de yoga.
C'est là le travail avec
voilà
avec
exactement
Christelle,
qui d'accord. a permis l'échange avec Christelle.
Mais alors justement Christelle, est-ce qu'il faut qu'ils soient souples nos petits pour faire du yoga? Parce que nous les adultes souvent on galère quand on n'est pas souple. Est-ce que les enfants sont tous souples ou est-ce qu'il y a déjà des raideurs chez l'enfant?
Il y a déjà des raideurs chez les enfants. Justement c'était l'objet d'une conversation hier avec une professionnelle de la petite enfance.
Ah, mais je crois qu'à 6 ans moi il touchait plus ses pieds déjà, il est raide comme un bâton, mon fils, c'est incroyable. C'est vrai, on croirait hein, que tous les enfants c'est donné, mais non. Hein.
Non, pas du tout. Effectivement, sur l'extension au niveau des jambes.
C'est-à-dire que bébé, ils le sont tous, et après, il y en a qui se raidissent, quoi, en fait.
Oui,
hein,
après, je pense que ça dépend aussi de notre environnement, de ce qu'on fait. Est-ce qu'ils continuent à grimper aux arbres, ou est-ce qu'ils sont plutôt sédentaires? Enfin, ça dépend vraiment de l'environnement, mais c'est vrai qu'il y a déjà des enfants, je constate sur mes ateliers, 4-5 ans.
Mais ils peuvent tous le faire quand même.
Mais voilà, c'est que ça se saurait en fait, hein, si c'était quelque chose qui était un frein, hein, même avec les adultes.
Ça peut même améliorer leur souplesse.
Complètement, voilà, c'est là où j'allais y venir. C'est qu'effectivement, ça va contribuer à garder en fait, ou en tout cas à améliorer la souplesse.
Bah c'est génial ça. Oui, Véronique.
Oui, je pense aussi qu'il faut garder à l'esprit que ces histoires et ces postures du yoga sont une base, en fait. C'est-à-dire que l'enfant se les approprie et puis il en fait un petit peu ce qu'il veut aussi. L'idée, c'est quand même de passer un bon moment en famille qui soit sympa et où on ne se focalise pas du tout sur la posture de yoga en soi.
Oui, bien sûr. En plus, on a dit que c'était un état d'esprit, tout ça. Alors justement, c'est quoi l'impact sur leur mental puisque les parents qui nous écoutent sont sûrement très intéressés avec des enfants parfois un petit peu excités. Comment les calmer ? Est-ce que ça marche ?
Oui, d'une manière générale, je le vois surtout sur des ateliers que j'ai sur le long terme. Effectivement, une fois que les enfants se sont emparés en fait des différents exercices que vous allez retrouver dans le livre, parce qu'il y a des exercices de respiration, il y a de la relaxation, il y a des postures.
La posture du chaboté, moi, elle m'interpelle. Ça ressemble à quoi ? Pour nous la décrire, peut-être ?
Alors, il n'y a pas de posture du chaboté en soi.
C'est le titre du livre, simplement.
Il y a la posture du chat, qui est une posture quadrupède. On est à quatre pattes. Et souvent, on fait un dos creux et dos rond.
Ça fait beaucoup de bien, ça. Ça soulage le dos.
Tout à fait.
C'est super, je vais vous le faire, Mélanie.
D'accord, okay, pendant ce temps, je continue. Et pourquoi comme matériel ? Parce que ce livre, on est d'accord, c'est pour démarrer à la maison. Éventuellement, si on a envie de faire une petite initiation au yoga, il faut acheter des tapis de yoga pour toute la famille. Alors, enfin, qu'est-ce que vous conseillez ?
Pas forcément, je pense que...
Très bien, Julia, vous avez bien réussi.
C'est vrai, en même temps, elle m'a posé la question, mais voilà, de loin, j'ai vu...
C'est pas mal, hein ?
Oui, complètement, merci. Je valide. donc, comme matériel... Moi, avec les tout-petits, je ne prends pas du tout de matériel. C'est plus une question de confort, en fait, pour les parents, pour ne pas se faire mal aux genoux quand on est à quatre pattes, des choses comme ça. Après, le tapis, ça peut être une manière aussi de délimiter un espace pour contenir, justement. Donc, voilà.
Pourquoi pas, ça ne coûte pas très cher.
Et ça ne coûte pas très cher, dans toutes les grandes anciennes, pour ne pas les nommer. On peut en trouver. Il y a toujours un vieux tapis de camping qui traîne dans le garage. Ça peut aussi faire l'affaire.
Je crois que vous utilisez la belle au bois dormant comme position, c'est ça ? Enfin, comme appui de compte. Et apparemment, ça calme les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors, l'idée de la belle au bois dormant, c'était de travailler, par exemple, sur la joie. Parce qu'on sait que chez les enfants, la joie, elle génère parfois une excitation qui est un petit peu débordante, un peu trop intense, un peu pénible pour les parents, hein, on se le cache pas. Et en fait, c'est donc d'arriver à aborder la question de la joie via le conte de la Belle au bois dormant et après de décliner certaines postures qui vont permettre notamment à l'enfant de se recentrer, de se calmer. Donc ça va être toutes les postures qui sont un petit peu en repli et qui vont lui permettre un petit peu de se
contenir,
de se contenir, d'être plus calme et après de passer sur des exercices aussi de respiration et de relaxation qui vont perpétuer en fait ce calme qui vient progressivement pendant la séance. Après, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est pas un outil super pratique que vous allez pouvoir utiliser en temps de crise. C'est-à-dire que si votre enfant il fait une colère, ça sert à rien de lui dire « Yo, on dégaine le matelas, on se met au yoga et tout ». L'idée, c'est de le faire un petit peu en prévention pour permettre à l'enfant d'avoir ses outils par la suite.
Mais il faut d'ailleurs soi-même se mettre en action. Comment il faut qu'il nous imite, l'enfant ?
On
leur montre nous-mêmes ou...
Alors déjà, ce livre, il a été conçu pour un moment de partage. Donc oui, en fait, c'est vraiment le créer ensemble. Le déroulé, en gros, c'est qu'on commence par un petit exercice de respiration pour se mettre en condition.
Tout est bien expliqué hein, dans le bouquin, je précise. Merci. Vous n'avez qu'à suivre les lignes et puis vous verrez très bien. C'est pas si compliqué que ça.
Non, complètement. Je pense qu'on a bien bossé dessus pour que ça soit accessible, justement. Et puis ensuite, il y a l'histoire qu'on va reprendre. Alors, c'est vrai qu'en général, on peut aussi lire en premier d'abord le conte pour se mettre dans le bain, faire l'exercice de respiration. Et puis ensuite, il y a tout un enchaînement avec des petits rappels, des petites phrases clés, en fait, pour rappeler où est-ce qu'on en est dans l'histoire. Là où c'est intéressant, c'est que il n'y a pas de posture la belle au bois dormant, mais il y a un enchaînement de postures. Et c'est cet enchaînement de postures
qui raconte l'histoire.
Qui raconte l'histoire. Et dedans, comme Véronique l'a souligné, il y a des postures qui vont être en fermeture ou en ouverture. Et on ne va pas rentrer dans des grandes théories yogiques. C'est juste que quand on ferme, on rassemble et on se centre.
Quand on ouvre, on prend la confiance.
Exactement. Voilà.
C'est bien pour les enfants qui manquent de confiance en soi, Mélanie. Merci à toutes les deux. On n'en a pas terminé avec vous et notre initiation au yoga pour enfants mérite encore quelques approfondissements. D'ailleurs, on vous donne la parole dans Bienfait pour vous si vous avez des questions ou besoin de précisions pour la posture du chat, par exemple. Eh bien, n'hésitez pas à nous joindre au 3921. Julia vous fera une petite démonstration. Et sinon, vous pouvez nous joindre aussi sur le compte Instagram de l'émission. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1.
Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et si vous avez justement le désir profond d'initier vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos petits-voisins, qui sait, au yoga, eh bien restez avec nous à l'écoute. Hein. On vous explique tout ce matin. Enfin, ce sont nos deux invités qui nous apportent toutes ces précisions. Christelle Cornu, professeure de yoga, et Véronique Deller, journaliste, co-autrice toutes les deux de ce livre « Namasté, petit chat beauté » aux éditions Solar. Alors, pour mettre nos petits au yoga, il n'y a pas de risque particulier. On a dit qu'on allait aborder ça quand même. Est-ce qu'il y a éventuellement des contre-indications des enfants chez qui c'est pas conseillé?
Non, à part des pathologies très particulières et dans quel cas les parents en général le savent et me l'indiquent.
Mais sinon, Christelle, aucun problème avec aucun enfant, il n'y a pas de raison.
Non, les enfants, non.
Et combien de fois par semaine? Parce qu'on sait que généralement, pour nous les adultes, la régularité c'est bien, mais est-ce que pour les enfants, il en faut absolument ou c'est quand ils en ont envie?
Christelle.
Alors Christelle, c'est moi.
Christelle, pardon.
Non, je pense que là, l'idée...
Donc c'est Véronique.
L'idée, c'est de passer un moment agréable en famille. C'est que à partir du moment où ça pose une contrainte, ça ne peut pas être efficace, ça ne peut pas être agréable, vous ne passez pas un bon moment. Donc il vaut mieux que vous le preniez finalement, fassiez une séance une fois par mois et vous en profitez tous, que de vous forcer à en faire deux ou trois par semaine et où finalement les enfants, ils vont être super saoulés, ils ne vont pas vouloir, tout le monde va s'énerver. En fait, ça va être complètement contre-productif.
Est-ce qu'on peut mettre de la musique pendant ces séances?
Complètement. En fait, je pense qu'il faut rester créatif et se connecter à son âme d'enfant. Et même ce qu'il y a dans le livre, je pense qu'on a bien bossé dessus, mais on peut être créatif, rajouter des choses, pas se mettre la pression, comme l'a dit Véro. Après, c'est sûr que je ne vous cache pas que quand il y a une régularité, ça peut rentrer dans un rituel, mais on n'est pas obligé de faire la séance tout entière. On peut totalement se dire, tiens, tous les matins, je fais ce petit exercice-là, sans forcément forcer. Mais en tout cas, ça peut s'inscrire. Et puis du coup, ensuite, ça devient comme un outil. Justement, on parlait des crises, des grandes émotions fortes qu'ont les enfants. On va pas travailler là-dessus au moment de la crise, mais en amont ou après pour faire redescendre, pris comme ça individuellement, ça peut être sympa.
Justement, une séance, vous dites, on n'est pas obligé de la faire entière, on peut piocher par-ci, par-là, une position, une posture, une séance de méditation. Si on fait vraiment une séance avec le compte, admettons la belle au bol dormant pour travailler sur la joie, avec les postures qui vont avec, ça, c'est une séance qui fait combien de temps à peu près?
Moi, je dirais une demi-heure. Après, ça dépend aussi de l'échange qu'on peut avoir derrière, sur lequel tu as pas mal bossé à la fin.
Véronique,
Oui, je pense qu'en fait, l'idée, c'est de faire ça au rythme qui convient à la famille. Nous, la séance, elle est calée sur un rythme d'une demi-heure, avec une ouverture en fait, d'échange sur les émotions, où on a vraiment une discussion avec son enfant sur ce qu'il a vécu, comment il voit ses émotions, comment il se projette dans ses émotions, qui est peut-être plus ciblée sur les enfants un peu plus grands. Mais on peut tout à fait aussi se dire qu'en fait, on est le soir, que l'enfant est fatigué, on lit le conte, on fait la relaxation, et puis on s'arrête là pour la journée.
Oui,
c'est
d'ailleurs,
parfait.
On n'est pas obligé de faire du yoga, on peut aussi juste lire le conte, on a le droit.
Tout à fait. C'est même aussi un petit peu fait pour ça. C'est-à-dire que si on embraye derrière sur une pratique et sur un échange, c'est super, mais l'objectif, c'est avant tout de passer un moment de qualité avec son enfant. Donc, si c'est juste l'histoire, en fait, c'est déjà juste parfait. En fait.
Complètement. Il y a des beaux contes philosophiques qui peuvent amener à des discussions. Et ça aussi, c'est yoga.
Vous dire, par exemple, contes philosophiques. Alors, on a dit, dans cette méthode, dans votre méthode, notamment, vous promettez que ça peut aider à booster la confiance en eux de nos enfants. Quel sera le bon conte ou le bon conte philosophique pour ça, si on a un gamin qui manque un petit peu de confiance en lui?
On a par exemple dans le livre un conte qui s'appelle les grenouilles et le pot de crème, où en fait l'histoire c'est deux grenouilles qui sont ensemble et une qui abandonne et qui du coup est abandonnée à son sort dans la crème, et l'autre qui continue dans son effort, qui prend confiance en elle et qui s'en sort. Et en fait l'idée, le message en fait est assez clair déjà dans le conte, et après tout le travail postural va être aussi sur des postures qui permettent d'être en ouverture, de gagner confiance. En force, en confiance, jusqu'à embrayer sur la relaxation et la discussion.
On a une question de Pascal sur Instagram qui nous demande, on a essayé de mettre notre fils qui est un peu hyperactif au yoga, mais impossible de le faire tenir en place. Est-ce que vous avez des conseils pour qu'il soit plus concentré, s'il vous plaît, Christelle?
Moi, j'ai plutôt une question pour cette personne. Est-ce que l'enfant, lui, déjà, il avait un intérêt? Est-ce qu'il avait envie de faire du yoga? Ça part de là.
Parce qu'il ne faut pas les forcer, en fait, c'est
ça.
Non.
Je pense que ça doit vraiment partir de cette envie.
Mais moi, j'ai une idée. J'ai une idée pour Pascal qui nous a écrit. Peut-être qu'on n'est pas obligé de dire attention, moment yoga. On n'a qu'à pas l'annoncer. Et en fait, on fait des postures.
Exactement.
On fait le compte aussi d'abord.
Hier, je suis allée dans une cour de récréation avec des primaires. Et puis, le yoga n'était pas très, très
en vue. En mode.
Voilà, c'est ça. Rien que le mot yoga effrayait les enfants.
Vous avez entendu les enfants chez Clément Lannou tout à l'heure, c'est un truc de feignasse, c'est pas du sport.
Voilà, c'est ça. C'est... Et effectivement, je ne leur dis pas. Je leur dis pas.
L'arnaque, ça marche aussi.
Et oui, voilà, effectivement, des fois, je pense que...
Sur un malentendu, ça peut leur plaire. Une dernière question de Marie de Redon sur Facebook. Elle dit, ma fille aime bien faire du yoga. Ah, voilà, il y en a une. De temps en temps avec moi, mais je n'ai plus trop le temps. Est-ce qu'il y a un sport qui ressemblerait un peu au yoga qu'elle pourrait faire après l'école ou le week-end? Il y a quelque chose qui ressemble au yoga, qui pourrait plaire aux enfants. Mais sinon, il y a des cours de yoga pour enfants, j'imagine, ça se trouve.
Complètement, il y en a plein. Ouais.
Bah oui, autrement la boxe.
Comme ça, elle n'aura pas à faire elle-même.
On en revient toujours à la boxe.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions et à celles de nos auditeurs. On a maintenant toutes les cartes en main pour se lancer avec nos petits, plus de zénitude en perspective, grâce à vos conseils. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Bonne continuation. Merci. On va à présent, Julia, passer à toute autre chose et passer dans l'assiette des patients atteints de diabète. On imagine que les repas, quand on a cette maladie, c'est pas très amusant. Zéro sucre, zéro plaisir. Eh bien, nous, c'est l'inverse que l'on vous propose ce matin. Comment se régaler à table, même avec un diabète? C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Elle est journaliste culinaire et il y a un an, patatras, elle découvre qu'elle est diabétique. Alors, ne souhaitant pas, et on la comprend, renoncer à son métier ni au plaisir de manger, elle a mis au point des stratagèmes pour continuer à se régaler tout en restant en bonne santé. Bonjour Annabelle Chakmes.
Bonjour Julia.
Vous venez donc de publier le livre, voilà, Diabète et coups de fourchette aux éditions Le Duc. Alors Annabelle, franchement, on imagine à peine ce que vous avez dû traverser quand vous avez appris cette mauvaise nouvelle médicale. Comment ça s'est passé pour vous?
Ça s'est passé, ma maman a fait un AVC et devait faire un bilan sanguin et j'ai dit bon bah écoutez, on va en faire un aussi quoi, on va checker tout ça et on va en faire un. Et le laboratoire m'a appelé en disant vous venez tout de suite, ça va? Tout va bien? Vous vous sentez comment?
Ah non.
Et j'ai dit bah ça va.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis hypochondriaque, donc ça peut partir très vite, très loin, vous voyez. Donc, j'y vais. Et en fait, le diabète, il y a deux marqueurs forts qui sont la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Et en fait, j'étais à 3,4 g à jeun et j'étais à 11,9 d'hémoglobine glyquée. Et l'hémoglobine glyquée, c'est une moyenne de votre diabète sur les trois derniers mois. Il faut être autour de 6. Hein.
Voilà. Bon, bah, voilà. Donc, vous étiez déjà bien fort, quoi.
J'étais en folie.
Bon, pour vous, évidemment, il n'était pas question de faire une croix, étant donné déjà votre métier, puis vous aimez manger, vous aimez la bonne chair, je veux dire. Il n'était pas question de faire une croix sur les gâteaux et les autres gourmandises sucrées. Donc, très vite, vous avez rebondi quand même. Hein.
J'ai essayé, parce qu'en fait, on se rend compte très vite, quand on a quelque chose comme le diabète, que c'est la posture qu'on prend qui va diriger la suite des événements. Parce que le diabète, en fait, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si direct, on se met sur une restriction très forte... On va pas tenir sur du long terme. Et moi, le pire, c'était les gâteaux, oui, mais pas tant. C'est-à-dire que j'ai réalisé où se trouvaient les glucides.
C'est-à-dire partout.
Totalement.
Oui, c'est ça.
Donc en fait, le pire pour moi, par exemple, n'a pas été de me limiter dans les gâteaux, mais ça a été plus les pizzas.
Les pâtes.
Oui, les pâtes, c'est effroyable. Oh là là. Le riz, c'est effroyable.
Même le riz, oui, le riz, c'est incroyable. Horrible. Alors, on va voir comment vous avez réussi à gérer, vous, votre diabète. Mais juste avant, rappelez-nous, quand même pour ceux qui nous écoutent, le diabète... On parle aussi souvent de pré-diabète, c'est quoi exactement? Il se passe quoi dans le corps?
Alors, le pré-diabète, en fait, vous êtes considéré comme diabétique à partir du moment où vous avez sur plusieurs prises de sang plus de 1,25-1,26 de glycémie à jeun.
Vous étiez déjà diabétique, vous, il n'y avait pas de pré-diabète.
Mais
hein,
moi, j'étais diabétique depuis des années et en fait, je n'ai pas réalisé.
Mais vous n'aviez aucun symptôme?
J'avais des symptômes.
Mais elle les écoutait pas.
Mais il y a la vie, il se passe plein de trucs, voilà. J'avais des symptômes, j'avais des suées nocturnes, mais effroyables. Enfin, j'étais trempée au point que j'étais persuadée de faire une préménopause. Enfin.
Mais pas un prédiabète.
Mais pas un prédiabète, alors que j'avais fait des prises de sang, que j'en avais plus que trois et que j'étais entre 1,50 et 1,60.
Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous faire un petit cours magistral sur ce qu'est le diabète? Et je crois qu'il y a trois types de diabète, les différences évidemment dans, dans les grandes lignes.
Bah, le diabète de type 1, ce qui n'est pas mon cas, le diabète de type 1, c'est vraiment une maladie auto-immune avec un dysfonctionnement du pancréas. Donc là, c'est vraiment une production d'insuline qui est insuffisante.
Ça peut arriver chez les enfants. Hein,
ça peut arriver chez les enfants, bien sûr. Ça peut arriver vers l'adolescence. Mais oui, ça peut totalement arriver chez les enfants. Et là, les pauvres, je leur envoie toute mon énergie parce que déjà à 44 ans, c'est un enfer à leur enfant, au secours. Il y a diabète de type 2, qui est le mien, qui est vraiment une utilisation inadéquate de l'insuline et qui provoque une perturbation métabolique glucidique dans le corps. Mm-hmm. À part que la différence entre les deux, c'est que vous avez un diabète qui est irréversible, qui est le type 1, et vous avez un diabète de type 2. Si on s'organise bien et si on est un peu rigoureux, on peut éviter l'insuline et on peut ne pas partir dans les tours trop vite, quoi. Mm. Le type 3, c'est le gestationnel.
Quand
et là,
on est enceinte. Ouais.
Voilà, quand on est enceinte.
Mais ça, c'est réversible aussi. Hein.
Oui, totalement.
Le gestationnel. On en parlait hier du diabète gestationnel, de l'alimentation des femmes enceintes,
exactement.
Effectivement, à prendre très au sérieux. Annabelle, on va continuer cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous en studio. On va détailler justement vos stratagèmes pour continuer à allier plaisir des papilles et bonne santé. Être diabétique, ce n'est pas synonyme de régime draconien. On vous donne toutes les astuces culinaires d'une spécialiste du sujet. C'est dans un court instant sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et aujourd'hui, on s'adresse surtout aux personnes diabétiques. Il serait plus de 5 millions en France si on prend en compte tous les types de diabète. Et donc ce matin, on vous explique comment les diabétiques peuvent vraiment se faire plaisir en mangeant. Car oui, ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, c'est l'objet de votre livre, Annabelle Chaque-Messe. Ça s'appelle Diabète et coup de fourchette aux éditions Le Duc. Alors on l'a vu, le diabète résulte d'un défaut du pancréas, mais dans votre livre, vous expliquez qu'il faut surveiller aussi ses vaisseaux sanguins. Alors pourquoi? Quel rapport avec nos veines et nos artères?
Alors parce qu'il y a un vrai lien entre diabète et cholestérol. C'est-à-dire que le diabète va favoriser ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui est le dépôt, qui sont des dépôts essentiellement de lipides.
De plaques de gras dans les vaisseaux.
Dans les vaisseaux. Donc en règle générale, quand on a du diabète, potentiellement, on a un peu, voire beaucoup de cholestérol et ça varie.
Donc, il ne faut pas oublier de surveiller ça. Donc, il est primordial, vous dites dans votre bouquin, de faire le plein quand on, dans l'alimentation, de façon globale, quand on est diabétique, de fibres. Pourquoi particulièrement chez les diabétiques?
Parce que les fibres vont ralentir la digestion ou l'absorption des glucides dans le sang, en fait. Et vous allez voir, je vais vous raconter, mais moi, il y a des choses qui vont faire monter terriblement et longtemps ma glycémie.
Par exemple quoi?
Par exemple la pizza.
La pizza, ça c'est impossible. Plus que les pâtes. Plus que des pâtes bolo, par exemple.
Mais alors, c'est tellement différent par diabétique. D'accord. Ça veut dire qu'un diabétique va avoir des pâtes plus que la pizza, un autre... Enfin voilà, moi c'est la pizza. La pizza, elle m'aime pas.
Donc vous en mangez jamais?
Ah mais si, bien sûr.
Elle a trouvé des trucs. Mais alors justement, est-ce qu'on doit vraiment changer drastiquement sa façon de s'alimenter quand on apprend qu'on est diabétique? Est-ce que l'important c'est surtout de ne pas grignoter?
Alors oui et non. C'est-à-dire que oui, bien sûr que c'est important de pas grignoter parce qu'en fait, chaque grignotage va annuler un effort qu'on aura fait. C'est-à-dire que chaque grignotage est une potentielle montée de glycémie. Donc oui, c'est un vrai problème.
Faut pas grignoter, quoi.
Non, faut faire repas matin, midi et soir. Mais entre, idéalement, non, à part si on mange des feuilles de salade ou qu'on suce des glaçons, vous voyez.
Ouais, vous faites tellement envie. Donc, autant que ces repas, ils soient délicieux, savoureux,
c'est
évidemment,
pour kiffer,
pour pas avoir cette envie de cette énorme fringale derrière. Vous parliez des fibres qui absorbent, donc qui aident à mieux assimiler les sucres, etc. Et vous faites la différence dans le bouquin entre les fibres solubles et les fibres insolubles. C'est quoi la différence et lesquelles il faut privilégier peut-être dans votre cas?
Il faut privilégier les solubles plutôt. Parce que c'est les fibres, les fibres qui sont... En fait, elles vont former une sorte de gel qui va ralentir l'absorption des glucides, comme je vous disais, et qui diminue l'absorption aussi des graisses et du cholestérol. On va les trouver, elles vont aider aussi à réguler le transit. On va les trouver dans les fruits, les légumes, qui ont de la pectine ou du mucilage, comme les pommes, les poires, les mangues, les gombos ou ce genre de choses.
Alors que une petite tarte aux pommes pour la glycémie, c'est pas incompatible.
Ouais, vite fait.
Faut pas mettre trop de sucre.
Alors que les insolubles, c'est plus les fibres qu'on va trouver dans les céréales et les graines. Et qui sont qui vont être, en fait qui vont être plus une aide en cas de problème de transit.
D'accord. Alors vous dites aussi évidemment qu'il faut limiter les sucres, on l'envisage très facilement, mais pour autant vous avez rencontré Pierre Hermé, hein, que je crois qu'il vous a séduit parce qu'il fait des recettes adaptées aux diabétiques.
Alors Pierre, c'est un ami que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un de profondément empathique, et on a beaucoup discuté. C'est-à-dire que ça m'a aidée dans l'acceptation de cette problématique, parce que c'est quelqu'un de très bienveillant. Et il avait réfléchi avec Frédéric Beau, qui est aussi un très grand pâtissier. Ils ont sorti Frédéric Beau a sorti un ouvrage, et Pierre a réfléchi à repenser sa pâtisserie, c'est-à-dire
à désucrer,
à dégraisser entre guillemets, à réduire les lipides, à réduire les glucides, et du coup à proposer des pâtisseries qui sont
délicieuses,
mais
meilleures, vous diriez?
Je dirais pas meilleure parce que Pierre est le meilleur, mais mais il y en a une, par exemple la tarte au citron, je préfère la nouvelle version
à l'ancienne. Mais,
alors les gens qui ont pas du diabète et qui ont goûté ces pâtisseries, est-ce qu'elles les trouvent aussi bonnes du
Totalement.
Coup ouais, c'est vraiment c'est désucré mais c'est très bon.
C'est extrêmement bon. La tarte au citron de Pierre, la gamme s'appelle Gourmandise raisonnée.
Ouais.
La tarte au citron de Gourmandise raisonnée est
dingue.
Et techniquement incroyable.
Alors, je crois que vous n'aimiez pas beaucoup le sport, hein, mais quand le diabète est arrivé...
Non, mais toujours pas. Hein.
Oui, mais sauf que maintenant, c'est devenu une obligation, hein, je crois.
Alors, oui, mais en fait, non. Alors, comme je vous disais, c'est-à-dire...
Oui, non.
C'est-à-dire que oui, il faut un peu d'activité physique, ouais. Mais il ne faut pas devenir quelqu'un d'autre. Mmh. Je ne vais pas me mettre à faire des marathons, du vélo, tout ça. Non, pas du tout.
Mais vous bougez plus qu'avant ?
Beaucoup plus. J'essaye de marcher, de descendre au moins 3 stations de métro, voire 4 avant, de repartir pareil. Si j'ai un repas, surtout au restaurant, oui aussi. Mais alors, le sport est très important, mais il y a aussi un autre facteur qu'on connaît moins bien, qui a un vrai impact sur le diabète, c'est le stress. Faut essayer de se détendre. C'est-à-dire, quand on a un petit pic d'angoisse ou un coup de pression, cohérence cardiaque, on y va, on respire, voilà.
Parce qu'autrement, la glycémie, elle se met à monter.
Vous l'avez remarqué, vous, en contrôlant votre diabète,
c'est pas
comme ça.
Remarqué, ouais. C'est que ça veut dire que mon mari qui me met un coup de pression, c'est aussi fort qu'une tarte aux fraises. Quoi.
Je vous conseille la posture du chat. Hein. Tout à l'heure, on parlait de yoga. Apparemment, ça marche très bien sur le stress chez les enfants, mais chez les adultes aussi. Alors, on se dit que lorsqu'on est diabétique, hein, ben, on prend des traitements, il y a des injections et que bon... Ça va, tout sera réglé. Mais non, en fait, vous vous rappelez quand même dans le bouquin qu'il y a pas mal d'effets secondaires avec vos médicaments.
Oui, alors, et dont il faut parler parce que c'est extrêmement, parfois, humiliant, désagréable. On ne nous dit pas que les glucophages, on peut avoir des diarrhées H24, en fait. Alors, moi, j'ai remercié toutes les entités supérieures qu'on m'annonce mon diabète quelques mois après le confinement, parce que, je vous dis la vérité, ça aurait pas été très possible d'évoluer dans la vie réelle. J'ai pas honte de dire qu'il y a des moments où, pour pouvoir, après les déconfinements, ressortir, aller en rendez-vous, j'ai mis des couches pour les vieux parce que vous ne savez pas comment ça allait se passer et comment les choses allaient se faire. Mais
ce qui est bien, c'est qu'avec l'alimentation, c'est ce que vous nous dites, c'est qu'on peut justement mieux réguler et peut-être aussi éviter la prise de trop de médicaments, non ?
Oui. Maintenant, il faut quand même se faire à l'idée que c'est un truc qu'on a et qui risque de rester potentiellement. Donc, la prise de médicaments...
On pourrait y échapper, c'est difficile. Quoi.
On peut la réduire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être réussir à réduire un dosage qui est peut-être un peu trop fort. Mais surtout...
Mais pour les insulinodépendants, ce qui n'est pas votre cas, non. Je pense que bien s'alimenter, notamment avec toutes vos recettes, ça peut aussi aider à moins s'injecter, non ?
Probablement, mais c'est surtout... En fait, j'ai eu envie de faire ce livre parce que quelques mois, une petite année après que j'ai été diagnostiquée, ma tante a été diagnostiquée diabétique aussi. Et je me suis rendu compte que j'avais des clés... Et qu'il fallait les partager. Et effectivement, oui, vous avez raison. C'est-à-dire
et puis
que...
c'est une épidémie silencieuse, mais on parle que du Covid, mais l'épidémie de diabète, elle est là depuis un petit moment.
En réalité, si vous regardez le livre, c'est des petits détails. Oui, je vais manger une salade avant une pizza, c'est pas grave.
Oui, c'est clair. Et on peut savoir ce que vous mangez, par exemple, au petit déjeuner. J'imagine que les pains au chocolat, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous nous proposez de gourmand, par exemple, dans votre bouquin ?
Alors moi, j'adore tout ce qui est salé, bien sûr. Les English breakfast.
Donc le petit déjeuner salé, c'est l'ami du diabète. Alors
c'est le super pote du diabétique.
On aime bien, c'est bon.
On peut manger du pain, mais il faut y aller tranquille.
Ouais, tranquille, une petite tranche, voilà. Et l'apéritif, c'est l'ami du diabétique
ça,
ou pas ?
Ça, c'est l'ami du Julien.
Alcool, comment on fait?
Elle passe du petit déj quand on est sous à l'apéro. Insuline. En fait, le problème, c'est que l'alcool, ça va vous faire baisser et remonter la glycémie très très vite. Donc en fait, pas trop d'alcool. Il y a des marques. Qui ont fait des spiritueux sans alcool.
Vous proposez un cocktail, hein, je crois, des cocktails sans alcool, non, dans
votre
bouquin?
Oui, mais vous avez des gins sans alcool, ouais. Vous avez des vodkas sans alcool, vous avez plein de... Moi, j'ai fait un Bloody Mary sans alcool, mais et puis pareil, privilégié, il y a une recette dans le livre d'amandes assaisonnées à la harissa.
Ah oui, j'ai vu ça, ça a l'air génial.
C'est super bon, et ça, vous pouvez le grignoter
plutôt
tout le temps.
Plutôt que les gâteaux salés, mais en fait bourrés de sucre.
Voilà, alors c'est pas bien de grignoter, mais moi, c'était ma vie, le grignotage. Mmh. Donc, passer de rien à
quelque chose.
Prenons des amandes, quoi. Ouais.
Vous mettez aussi dans votre livre une recette de l'enseigne French Bastard, qui est donc trois pâtisseries, je crois, dans Paris. C'est un pain spécial pour les diabétiques, parce que le pain, c'est autorisé si on suit cette recette-là. Par exemple, il a quoi, ce pain de particulier?
Alors non, c'est pas hyper autorisé. C'est-à-dire que celui-ci, c'est au cas où vraiment on ait envie de se faire une petite tartine pain beurre et qu'on est en hyperventilation parce qu'on en a vraiment envie, vous voyez.
Vous donnez des trucs de secours aussi, hein, c'est ça dans le livre.
C'est ça, parce que moi, ça a été le cas, vous voyez, j'ai eu besoin de plein de trucs de secours.
Notamment de pain.
Facile à faire celui-ci?
Oui, il est très facile. En fait, il est juste plein de fibres.
C'est ça le secret, en fait.
Et la mousse au chocolat, je crois que vous arrivez encore à manger de la mousse au chocolat.
Ouais, ça sera
la bonne nouvelle,
hein.
Le mot de la fin. Racontez-nous.
Moi, je mange tout, les gâteaux, la mousse au chocolat. J'ai fait une recette en essayant d'équilibrer et de trouver des chocolats un peu plus amers, moins riches en sucre. Mais oui, je mange tout. Enfin, il y a un moment où il faut juste savoir et demander une vraie astuce. Demandez à votre médecin à combien de grammes de glucides vous avez le droit par repas. Ah. Ça va vous donner un vrai repère, si vous voulez mettre toute
la dose dans la mousse au chocolat,
mais
ben
totalement.
Voilà.
Mais la question s'est posée, c'est-à-dire que moi je buvais beaucoup de soda. Est-ce que j'ai envie de marcher 12 km pour boire une canette de soda?
Pas du tout. Merci beaucoup Annabelle pour vos conseils très positifs. Alors on a compris, même quand on est atteint de diabète, on peut continuer de se faire plaisir et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. On aime ce genre de message dans cette émission car le bien-être, il est important pour tous. Pas question de laisser les personnes avec une maladie chronique de côté. Merci pour tout.
Merci à vous.
Merci Annabelle. À présent Julien, on va continuer de se faire plaisir justement dans notre séquence tendance qui est t'en approche. On va poursuivre dans la gastronomie d'abord avec les conseils du chef Abdel Alaoui pour profiter pleinement des fruits de mer. Je pense que c'est compatible avec le diabète.
Oui.
Hein. Oui. Ensuite, Philippine Darblay nous propose un éclairage sur ces kits olfactifs qu'on voit un peu partout, notamment pour les patients après Covid, mais pas seulement. Il permettrait de rééduquer notre odorat. Et ensuite, c'est Sophie Braffman qui terminera ce tour de table avec sa sélection de lingerie de fête. Je crois que le programme à venir est très 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 sympa. Alors je vous le conseille, restez sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine Feel Good Bien-être. Ici, on ne vous propose que des solutions ou des inspirations, comme vous voulez. Ce que l'on souhaite, c'est que vous alliez bien ou encore mieux. Et donc à présent, on ouvre notre séquence tendance avec en premier lieu la chronique gastronomie. Aujourd'hui, c'est le chef Abdel Alaoui qui sera aux commandes. Bonjour Abdel.
Bonjour les filles.
Bonjour.
Donc, j'espère que vous allez bien.
On va apprendre vraiment comment bien profiter des fruits de mer. Je vois qu'il y a des algues à côté de vous.
On va parler huîtres, comment dresser un beau plateau de fruits de mer et comment cuisiner les fruits de mer pour les fêtes.
Ah bah c'est génial, très utile. Ensuite, ce sera à vous, Philippine Darblay, de nous présenter votre tendance du jour et je crois qu'elle sent très bon, hein, celle-ci aussi. Elle est particulièrement en dos odorante, hein, en tout cas.
Et tout à fait. L'idée, c'est d'améliorer un petit peu son odorat quand on le perd à cause du Covid. Donc, c'est plutôt positif.
Ah, avec chouette. Des kits
essentiels, exactement.
Et enfin, on terminera... Non, pas de kilt. J'ai dit kilt. Non, rien kilt. À voir. Rien à voir, ce sera pour une autre chronique. Enfin, on terminera aujourd'hui avec vous, Sophie Braffman. Peut-être que vous nous ferez une chronique un jour sur les kilts, hein, qui sait. Vous êtes notre spécialiste mode et donc une sélection de lingerie, mais pas pour n'importe quelle occasion, je crois.
Oui, pour les fêtes. Alors, je n'ai pas amené de lingerie odorante. Vous savez que ça existe, hein, au Japon. Japon, ils ont des slips odorants, mais bon, c'est des japonais, c'est normal. Donc moi, je vais vous parler de lingerie un peu sexy. On va voir si la tendance du rouge est toujours d'actualité pour le 31.
Grosse question. Très bien, nous dit Nicolas Baudin, notre réalisateur, les slips odorants.
Je sais pas, il a dû en acheter un. C'est le slip qui absorbe les odeurs aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, c'est sympa. Joli programme, Sophie, ce sera à vous dans quelques minutes. Mais tout de suite, c'est la chronique gastronomie de Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Eh bien voilà, c'est parti. Notre chef Abdel Alaoui nous embarque ce midi sur son grand bateau. On va déguster la mer dans l'assiette avec vous, Abdel. Écoute.
On va déguster la mer parce que c'est bientôt Noël. Alors vous savez comment ils sont? Vous savez comment ils sont les jeunes pour Noël? Ils sont là. Je veux une console de jeu pour Noël. Je veux un piercing. Moi pour Noël, je veux l'intégrale de la petite maison dans la prairie. Et ils croivent quoi les jeunes? Oui, ils croivent.
Ils croivent mal.
Ils croivent que l'argent ça pousse comme ça sur le sapin. Moi j'ai le seum contre les jeunes et j'ai envie de leur dire grandissez un peu, allez manger des fruits de mer. Alors ils diront ouais c'est cool mais c'est cher les fruits de mer, on s'en fout partout, on pue des doigts, pour pécho c'est chaud. Bon, ils ont un peu raison hein. Ils ont un peu raison, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous donner toutes les bonnes astuces pour choisir des huîtres, comment dresser un bon plateau de fruits de mer et comment les cuisiner. Alors on va commencer par les huîtres, incontournable sur une table de Noël. Elle apporte un côté un peu festif, elle est pleine de protéines. Alors l'huître à Noël, c'est comme le bigorneau à Quimper, c'est accroché, l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, cette saison, c'est de octobre à mars.
On est en plein dedans, là.
On est en plein dedans. Alors, il y a les huîtres fines, c'est les plus jeunes. Elles sont creuses et moins denses que les huîtres dites spéciales, qui seront plus charnues et plus grasses.
Mais alors, c'est quoi cette histoire de numéros? Je vois des fois les numéros 2, les numéros 6, 3, tout ça. Là. Expliquez-nous.
Alors, sur l'étal de l'écaillé, vous pourrez retrouver différentes tailles d'huîtres creuses. Sachez que plus le numéro sera élevé, plus le coquillage sera plus petit et inversement. Alors le numéro sera petit pour les huîtres très charnues. Par exemple, une huître numéro 0, elle aura un poids supérieur à 151 grammes. Une huître numéro 4, elle pèsera entre 46 et 65 grammes.
Moi j'aime les grosses comme ça, et vous? Moi, j'aime toutes les tailles. Ouais. Vous nous conseillez quoi comme calibre, alors?
Alors, moi, je vous conseille la numéro 3 qui correspond à une taille moyenne. Et en général, vous allez plaire à tous vos amis pour ce numéro. Et on peut aussi les cuisiner, les huîtres. Mais prenez une numéro 0.
On peut les mettre au four.
Oui, on peut les mettre au four. On peut gratiner avec un bon sabayon par-dessus. Alors, prenez-les numéro 0. Donc, très grasse, très grosse.
Ah oui, c'est votre conseil, vraiment. Pour cuisiner, hein, c'est ça. Alors, comment on dresse un beau plateau de fruits de mer, Abdel?
Alors, évidemment, on va le faire soi-même. Ça coûte moins cher et c'est hyper ludique pour les jeunes.
C'est dur.
Non, c'est très facile d'ailleurs. Alors, évidemment, il y a les langoustines, il y a les crevettes, il y a les gambas, il y a les bulots, il y a les bigorneaux, il y a les palourdes, il y a les huîtres, il y a les homards, si vous aimez ça, avec les tourteaux. Alors il vous faut à peu près 1,5 kg de fruits de mer par personne.
D'accord.
Alors c'est pas en chair, hein, c'est vraiment il y a la carcasse, il y a la coquille autour,
donc
c'est
500 grammes.
Ouais. Donc s'il y a 10 personnes, ça fait
5 kilos.
5, bravo.
Bravo, Julia.
Ouais, je suis bonne en chiffres.
C'est vous qui avez calculé? Je crois que c'était Philippine, pardon, c'est moi.
D'accord.
Il vous faut un grand plat assez joli, des ramequins, un couteau à huîtres, des glaçons, du papier aluminium, des rince-doigts, des pics à bigorneaux, du beurre salé.
Ah oui, du beurre salé.
De la mayonnaise fraîche et du citron.
Alors, vous avez oublié le pain?
Le pain, évidemment, un bon pain, un pain sec, un pain complet, c'est très bien. Alors, la première étape, vous allez garnir ce petit plateau de glaçons ou de papier aluminium. Ce papier aluminium, vous allez froisser légèrement pour pouvoir poser facilement les huîtres par-dessus.
Ah, et pour les caler, c'est plus pratique.
Ouais, pour les caler. Mmh. Alors, on peut aussi, à la place de l'aluminium, mettre des algues. Là, j'en ai juste à côté.
En plus, c'est joli.
C'est moins facile à trouver, des algues. Mais on demande à son poissonnier.
Vous demandez à votre poissonnier un peu d'algues. Il vous donne même du citron, si vous lui demandez du citron. Ou de la paille. Il y a aussi de la paille pour caler ces petites huîtres.
Facile à trouver, la paille aussi. Hein. C'est vrai que
c'est chez Naturalia, ou chez l'animalerie du coin. Alors, deuxième étape, vous disposez comme ça les huîtres ouvertes en cercle autour du plat. Elles peuvent être présentées avec leur capot. Vous disposez les bigorneaux dans des petits ramequins comme ça, juste posés, parce que si vous en mettez comme ça sur la glace ou sur le papier aluminium, elles peuvent se perdre, se perdre les bigorneaux. Le tourteau ou le homard coupé, vous
en
mettez
deux.
En deux, voilà, comme ça, vous présentez, vous le mettez sur le côté ou en plein milieu. Alors il y a une troisième étape, vous disposez les crevettes en couronne sur le bord de votre petite verrine, comme ça, avec la queue
en
l'air. Vous posez les langoustines, alors les langoustines, on ne va pas les poser comme ça, juste allongées, mais plutôt les planter comme ça sur
en épi sur le
papier alu, sur la glace. Et après, on va combler les vides avec des palourdes ou des bulots.
Passion.
Vous aimez ça, les bulots?
Passion, bulots.
S'ils sont trop gros,
bulots maillot.
J'adore les bulots.
Même quand ils sont énormes, là, comme ça.
Surtout quand ils sont énormes. Bulots et maillot. On les trempe dans la maillot. Mais c'est mon rêve.
Vous allez jusqu'au fond avec le petit truc noir qui reste dans la maillot.
Évidemment.
Tout. Plus c'est visqueux, mieux c'est, quoi. Alors après, il y a une quatrième étape. Évidemment, vous allez disposer quelques quartiers de citron et la fameuse mayonnaise, les rince-doigts et les pics à bigorneaux pour aller choper les bigorneaux dedans.
Moi, je mets jamais rince-doigts. On va se laver les mains au lavabo.
Adèle, vous nous le disiez tout à l'heure, on peut aussi cuisiner les fruits de mer les fêtes.
Hein. Bah oui, on peut cuisiner les fruits de mer. Moi, j'aime bien la Saint-Jacques. Avec cette Saint-Jacques, on va la laisser crue, on va faire un carpaccio avec une sauce vierge.
Alors, attendez, on prend nos stylos, vous nous donnez la recette, on vous écoute.
La mangue, Alors, le carpaccio de Saint-Jacques. Vous prenez Saint-Jacques cru avec une petite sauce vierge à la mangue. Alors, il vous faut une dizaine de Saint-Jacques. Vous demandez à votre poissonnier directement de récupérer le pétoncle. Une demi-mangue, une demi-botte de coriandre, une échalote, quelques olives noires dénoyautées, un demi-citron pressé, de l'huile de sésame, un peu de sauce soja et c'est tout.
Ça, c'est alors, tout pour les ingrédients. Okay.
Tout pour les ingrédients. On va commencer par tailler finement les Saint-Jacques, vraiment 2-3 mm d'épaisseur, comme ça, avec son couteau.
Moi, je conseille de les mettre au congélateur un petit peu avant, parce qu'elles sont plus dures et c'est plus facile à couper.
Elles vont durcir, ça va être plus facile à couper. Elles vont éviter de s'écraser quand on va les couper. On les étale sur les petites assiettes. Directement, on fait la présentation. Dans la saladier, on va rajouter tous les ingrédients hachés très finement en brunoise, donc en petits dés. On rajoute l'huile de sésame, la sauce soja, donc pas besoin de sel. La sauce soja, c'est déjà assez salé. On mélange bien cette sauce vierge. On n'a plus qu'à verser par-dessus, comme ça, sur les Saint-Jacques.
Et en entrée,
c'est parfait.
Merci Abdel, c'est génial, franchement on va tester ça. Merci beaucoup Abdel pour tous ces conseils. Les produits de la mer n'ont presque plus aucun secret pour nous, on a tout, toutes les astuces pour dresser un beau plateau et puis faire sinon cette belle recette.
Et j'ai des huîtres
Saint-Jacques, on va déguster après et sa sauce vierge. Merci Abdel. Dans un instant, on va passer à d'autres tendances, on va découvrir notamment ces fameux kits olfactifs pour rééduquer notre odorat avec Philippine Darblay. Et puis Sophie Braffman, notre experte mode, a choisi pour nous des sous-vêtements festifs, de la lingerie de fête. Et oui, on se fait plaisir, on est déjà dans une ambiance presque de Noël ce midi sur Europe 1. Alors restez, vous amusez avec nous.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous, nous sommes en direct jusqu'à midi et demi avec nos trois chroniqueurs du jour. Les fruits de mer d'Abdel Alaoui, ça y est, ça c'est fait. Et à présent, je ne sais pas si ça va sentir l'iode encore, mais peut-être, dans la chronique de Philippine Darblay, car elle va nous parler maintenant d'un sujet qui est malheureusement à nouveau très d'actualité, la perte d'odorat due au Covid. Mais apparemment, il y aurait des solutions, Philippine.
Oui, alors je ne sais pas si ça, c'est arrivé à l'un de vous ou pas, de
perdre
l'odorat.
Moi,
voilà.
Bon, bah voilà, 15 jours après, c'est revenu, heureusement. Ça, j'aurais été trop malheureuse, ouais.
Bah, en fait, bah, je pense que cette table est assez représentative de ce qui se passe. Hein. C'est vrai que c'est un symptôme ultra fréquent du Covid. Ça porte un nom, ça s'appelle l'anosmie. Et entre autres, alors effectivement, c'est très gênant, mais ça peut être aussi dangereux si on oublie des casseroles, le gaz, ce genre de choses.
Ah oui, on sent rien. Pourquoi est-ce qu'on perd l'odorat, justement, Philippine ?
Alors, apparemment, le virus en fait affecterait les cellules de la muqueuse olfactive. Ça donc générerait une réaction inflammatoire et entraînerait la mort de neurones récepteurs olfactifs. Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette muqueuse, elle est normalement capable de se régénérer, d'où le fait que 75 à 85% des personnes qui perdent l'odorat suite au Covid puissent le retrouver à peu près dans les deux mois qui suivent.
Mais c'est vrai que c'est une tristesse de plus sentir ce qu'on mange. C'est vraiment très
c'est
triste.
Horrible, c'est déprimant.
Dans les Covid longs, malheureusement, il y a des gens qui gardent ce symptôme très
exactement.
Très longtemps.
Mais j'avais pas imaginé à quel point c'était triste. Alors justement, quelle solution pour nous aider à retrouver l'odorat post-Covid ?
Et bien justement, il y a des choses qu'on peut faire, notamment se rééduquer l'outil olfactif. Alors pour ça, il y a pas mal d'autres outils, justement, notamment des kits d'huiles essentielles. Alors, il y en a quelques-uns sur le marché. Il y a le kit Ma Madeleine de Kiné Soin. Mais il y en a un que j'aime particulièrement, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est celui d'une marque qui s'appelle Aimé de Mars, qui est une marque dite d'aroma parfumerie. Donc ça, c'est un concept qu'elle a déposé, la fondatrice Valérie, qui mélange à la fois la parfumerie, l'aromathérapie, donc c'est l'aspect médical des huiles essentielles, et l'olfactothérapie, qui fait en fait le lien entre les odeurs et les émotions. Ça, je pense que ça nous parle à tous.
Alors, comment marche ce kit que vous nous avez amené, je crois?
Effectivement, j'en ai quelques-uns. Exactement. Donc, en fait, il y a deux programmes. Chaque programme est constitué de 6 senteurs, donc toutes stimulantes, soit le rappel des éléments de la mémoire, la menthe, le quotidien avec le café, ce genre de choses. Il y a des petites languettes comme ça pour tester et un carnet de notes. Donc, chaque jour, un peu comme un blind test, on sent le numéro 1 et puis on note. Alors, est-ce qu'on a des sensations ou non? Parce que parfois, on peut même carrément ne pas avoir de sensations. Et est-ce qu'on est capable de l'identifier? Ça, c'est un autre état, parce que parfois on sent, mais on ne sait juste pas ce que c'est. Et puis voilà, ensuite on peut passer au programme numéro 2, avec des senteurs donc un peu plus difficiles. Et ce que je peux vous proposer, c'est que pendant qu'on en
on va
parle,
tester, mais oui,
testons.
Abdel, voilà. J'imagine si vous perdiez l'odorat moi, pour flippé, un cuisinier, ça doit être affreux.
J'ai vraiment eu peur cet été. Et moi, il s'est passé un truc assez étrange, c'est-à-dire que tout ce qui était fumé, le café, le barbecue, sentait le poisson pourri.
En plus, ça changeait les odeurs.
Donc, vous m'auriez donné une blanquette de veau ou du café, c'était la même.
Ouais, c'est pareil.
Mais moi, j'avais tellement faim que je mangeais quand même. Mais
j'ai désespérément essayé de ressentir
en
la
plus,
pâte à tartiner.
C'est un sens qu'on ne peut pas tromper l'odorat.
Ouais. Alors, vous nous faites sentir quoi, Philippine?
Alors,
nous
bah justement,
donc, je vous décris, elle a des petites fioles remplies d'huile essentielle, enfin, d'huile odorante. Et donc, on doit deviner ce que c'est.
Je sens rien.
Moi, je dis menthe poivrée, là, le premier.
Bah, vous voyez, c'est pas si évident. Vous imaginez pour ceux qui le...
De l'amande, non.
Non, Mélanie, le vôtre.
Non, je suis très loin.
Ça s'appelle un parfum.
Eh bah, ben, il y en a un, c'est des clous de girofle.
Ah, clous de girofle.
Et l'autre, c'est noix de coco.
Ouais,
et
ça, bref, moi, j'ai noix de coco.
Ça, c'est clous de girofle.
J'ai dit que c'était de l'amande. Bah, dis donc, c'est resté détraqué, je crois.
Ça fait penser au gâteau.
Ben bah, voilà, exactement. Mais c'est exactement le but de ces kits, c'est de vous faire.
Vous sentez bien
Mais sentir le clous de girofle.
Philippine, vous avez vu, peut-être que vous avez pu parler avec un utilisateur. Qu'est-ce qu'ils en pensent?
Eh ben oui, j'ai parlé à Anna, qui elle avait perdu l'odorat pendant 6 mois et qui l'a retrouvé en 2 à 3 semaines avec ce kit.
Génial.
Pour elle, c'est un peu ce que vous disiez, c'était déprimant, assez anxiogène, elle était un peu amorphe en fait. Et ça a vraiment été libérateur, elle a retrouvé sa joie de vivre avec l'odorat.
Et Philippine, qu'est-ce qu'en pense le corps médical de tout ça?
Bah oui, c'est vrai qu'on se demande, si, voilà, est-ce que c'est validé par le corps médical? Alors je me suis adressée à une orthophoniste qui s'appelle Noa Misora, qui est praticienne à Lyon, parce qu'en fait c'est un métier qui se sert déjà de ce type de kit. Alors en fait les orthophonistes travaillent, alors, entre autres, sur les troubles de développement, des accidents, des maladies, etc., qui en dommage l'odorat. Et du coup, Noémie nous explique pourquoi elle aime utiliser ce kit.
Le kit de Valérie, c'est pour moi vraiment des odeurs naturelles qui du coup vont se rapprocher le plus de ce que les personnes ont pu avoir comme expérience sensorielle. C'est vraiment bien pour faire un petit rappel à la mémoire, ça j'aime beaucoup. Et puis voilà, le fait que ce soit pas des odeurs synthétiques qui font mal à la tête, et puis le kit est très pratique, il dure longtemps.
Alors voilà, elle l'utilise vraiment à sa manière, en complément de pas mal d'autres processus, notamment un travail sur la mémoire. Typiquement, le café peut rappeler le cuir du fauteuil du grand-père. L'aspect sensoriel aussi, donc sentir la menthe, mais aussi la toucher, la goûter, voilà, refaire tout le lien avec les autres sens. Et puis l'aspect fonctionnel, vérifier que le nez, la respiration, etc. fonctionnent bien.
Combien ça coûte, Philippine?
Eh ben, on est à 29 euros le kit et 55 les deux. Voilà.
Merci beaucoup, Philippine, pour toutes ces précisions sur ces kits olfactifs dont on entend de plus en plus parler, mais qui existent finalement depuis longtemps. On a compris que les indications, notamment chez les orthophonistes, sont diverses. Allez, je me tourne à présent vers vous, Sophie Braffman. Vous aimez bien nous parler lingerie. J'ai l'impression, d'ailleurs, en ce moment, c'est presque une petite obsession. On était sur les culottes menstruelles, on a fait des culottes moumoutes il n'y a pas si longtemps.
C'est vrai,
ça. Et donc, aujourd'hui, ça va être de la culotte scintillante, j'imagine, vu le thème.
De la culotte brillante. Alors, tout d'abord, je me demandais si la tradition existe toujours de la culotte, pas de la culotte, de l'ensemble rouge. Vous savez, on s'embrasse, en fait, le soir du 31 à minuit, sous le houx, avec un ensemble rouge. C'est une tradition italienne.
Moi, je connais pas.
Vous connaissez pas,
non,
pas
non, mais voilà. On n'est pas en culotte.
Et quand on doit mettre des culottes rouges. Non, en général, on est en soirée, alors ça dépend. Certains seront peut-être.
Ils ont l'air sympas des réveillons chez Sophie, en tout cas.
Mais non, mais c'est vraiment une tradition. On fait un petit vœu avec un ensemble rouge. Alors bon, je me demandais si cette tradition persiste. Pas vraiment, en fait. Non. Puis bon, c'est une tradition italienne. On est en France, on a plein de traditions. Mais bon, la question que je me posais, c'était de savoir si on était toujours dans ce côté très sexy, chic, ostentatoire, mais sexy quand même et assumé. Alors j'ai demandé à Coralie De Brune, qui est directrice marketing chez Rouge Gorge. Et elle nous parle de leur nouvelle gamme rose, très en vogue pour les fêtes de fin d'année et très audacieuse aussi, idéale pour un 31.
On développe une lingerie super sexy mais super accessible en termes de prix et donc accessible à plein de femmes. Accessible en termes de morphologie, ça veut dire que ça ne s'adresse pas qu'à des femmes qui font du 90B mais ça va jusqu'au bonnet F. Et puis avec des formes revisitées autour de la corsetterie, donc on a des porte-jartelles, on a des serre-tailles, tout ça avec des matières comme de la soie, des dentelles incroyables.
Je sens que le serre-taille vous a interpellé.
Moi, j'ai peur de pas respirer le jour de Noël.
Sur les vêtements. Eh bien, bravo, Julia. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est la grande nouveauté du serre-taille, puisque justement, il se porte à l'extérieur. Alors, je vous l'accorde, mieux vaut avoir une taille plutôt dessinée, quand même. Mais ça fait son effet. Une collection spécifique avec des matières spéciales, évoquée également par Séverine Dehelm, directrice de l'offre de la marque Rouge Gorge, toujours.
Cette collection est vraiment travaillée autour de formes très architecturées où on joue à la fois l'opacité, le fait de dévoiler certaines parties du corps et donc tout ça autour de matières très innovantes qui sont peu utilisées en corsetterie parce que très techniques, donc notamment par exemple le faux cuir, c'en est un exemple, mais aussi des broderies un petit peu haute couture avec des fils particulièrement matériels qui viennent souligner les dessins et les motifs qu'on utilise.
Alors, je résume donc pour ces fêtes de fin d'année. Un dos de soutien-gorge structuré en tulle, dentelle ou broderie qui dépasse de la robe pour faire l'affaire. Un serre-taille sur un petit top apparent ou sous une veste, hein, si on est un petit peu plus audacieuse, façon Madonna qui affichait à l'époque son corset signé Jean-Paul Gaultier. Ou alors, carrément, hein, le string harnais, très chic, architecturé, hyper chic, sous un blazer et parfait pour
Adèle, une soirée. Il a 15 ans, il dit, moi, je suis intéressée.
Par vous visualisez très bien la
Vous visualisez ou pas la... Je mettrai une petite photo sur notre Insta quand même, parce que je me dis que pour un
Et puis pour en ouvrant les huîtres,
avec un petit string harnais.
Le mec, il a perdu l'odorat.
Voilà, ça met une ambiance pour la famille, quoi. Tout de suite, on est ah, tiens, il y a tante Lucette. Ah, ben, hop, le string harnais. Bon, c'est sympathique. Alors, par contre, évidemment, si vous avez prévu, comme Julien, une soirée raclette à la montagne, hein, le soir du 31,
avec le string harnais, je peux pas.
Pour le string harnais, c'est pas possible.
Le string Roquefort.
Alors, j'ai demandé à Caroline Laplace, qui est responsable des achats lingerie au printemps, de nous répondre si on vous pouvait être à la fois chic, sexy, mais confortable.
C'est possible d'avoir une lingerie confortable tout en restant sexy. Tout se joue dans les matières. En fait, elles doivent être légères, délicates et tout en transparence. Ensuite, c'est la couleur et le détail qui vont apporter la sensualité à l'ensemble. Alors pour cela, on va choisir de la dentelle. Si elle est française, c'est encore mieux. Ou le tulle fin, qu'il soit brodé ou non. Et côté forme, le décolleté naturel s'inscrit comme une tendance de fond. Et pour cela, on va privilégier les formes triangles, armaturées comme la forme foulard ou non.
Ça veut dire quoi le décolleté naturel ? Excusez-moi,
Pas du tout. Vous avez raison de poser la question, Mélanie. Un décolleté naturel, c'est-à-dire que c'est fini les seins au but.
Bah oui.
Voyez les seins au but ou alors les push-ups
qui remontent vraiment. Non, là, on reste sur quelque chose
de beaucoup plus sobre. Et ça tombe bien parce qu'on en avait marre des seins qui remontent jusqu'au menton. Hein. C'est un peu comme le string qui remonte jusqu'au nombril. C'est désagréable. On passe son temps à remettre le string. C'est très désagréable. Et surtout aujourd'hui, bonne nouvelle, Abdel. Quand on parle de, je m'adresse à vous parce que ça va vous intéresser. Mais quand on parle de lingerie, justement, on n'a plus besoin d'avoir des strings ou des tangas, puisqu'on a des culottes avec des découpes au laser qui évitent l'effet double fesse.
Vous savez, c'est génial. Et ça, c'est important, Adèle, non ?
Ça, c'est vraiment... Voilà. On est content de le savoir.
Je note.
Alors, le rouge reste bien sûr toujours d'actualité, mais alors moi, j'ai vu et j'ai repéré pour cette fin d'année des rouges carmin ou cerise. Ça donne extrêmement bonne mine. C'est très joli et c'est confortable. La culotte haute, Mélanie, Julia, la culotte
très
haute philippine.
Pas mal, très confortable.
On est bien dedans. Hein. Et surtout,
philippine, ça vous plaît pas,
moi,
la culotte
haute? Je suis pas fan du résultat. J'ai pas des jambes de suédoise et du coup, j'ai toujours l'impression que ça me tasse.
Oui, mais
ça,
vous avez peut-être le ventre plat. C'est pour ça que vous dites ça. Parce que moi, j'aime son côté gainant à la culotte haute. Et franchement, après un pas en famille, on est bien contente d'avoir une culotte gainante. Et enfin, l'une des pièces totalement phares, c'est le body. Alors attention à choisir un body avec une ouverture adaptée hein, pour ne pas se scier l'entrejambe. Moi, mon petit coup de cœur va à un body culotte clipsable chez Albertine. Je posterai évidemment la photo sur notre Insta. Pourquoi il est formidable ? Parce qu'en fait, c'est une petite culotte que vous déclipsez comme ça au niveau de la taille.
Ah, donc, pratique.
Mais pour la pause pipi.
Merci, parce que c'est une énorme galère, là, c'est trois points. Là,
merci. Ou encore, on se met toute nue dans les toilettes.
Exactement.
On n'a pas envie de ça un soir de 31.
Vous allez sauver notre réveillon. Merci.
Le body clipsable.
Et on a compris que vous organisiez des soirées un peu coquines.
Voilà. Oui, appelez-moi.
Merci Sophie pour toutes ces découvertes du côté de la lingerie. Toutes les pièces que vous nous avez présentées sont de belles idées cadeaux. En plus, moi je dis ça, je dis rien. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt car bien fait pour vous, c'est fini. Pour aujourd'hui, on sera évidemment de retour dès demain à 11h. Et Mélanie, demain, qu'avons-nous au programme ?
Alors demain jeudi dans Bienfait pour vous, on va parler d'un sujet qui nous fascine tous depuis toujours, la gémellité.
Ah oui,
vrai ou faux jumeaux, relations fusionnelles ou rivalité, vie identique, télépathie. On passera en revue toutes les idées reçues sur ces frères et sœurs très particuliers. Ce sera passionnant, je vous l'annonce déjà, donc soyez au rendez-vous.
Et d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi si vous le souhaitez sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.